Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougo avec vous. Bienvenue dans cette édition matinale du Monde aujourd'hui, de ce mercredi 14 août. Au sommet, Amnesty International appelle à mettre immédiatement un terme aux expulsions forcées et démolitions massives à Abidjan dans les quartiers précaires. Progrès notable lors du deuxième tour des pourparlers indirects entre l'Éthiopie et la Somalie à Ankara. Déclaration faite par le ministre turc des Affaires étrangères au Sénégal. Plusieurs médias ont suivi hier une journée sans presse pour alerter sur la situation des médias dans le pays.
Mais il faut reconnaître que pour s'exprimer, il faut exister. Et aujourd'hui, c'est notre existence qui est menacée.
Maïmouna Ndour Faye, membre du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal, interview à venir dans la partie magazine de cette édition. Situation politique tendue au Venezuela, les Nations Unies se disent inquiètes face à ce qu'elles qualifient de climat de peur régnant dans le pays après la présidentielle contestée. En sport, après des JO Paris 2024, sans la moindre médaille décrochée, le Nigeria s'interroge sur les raisons du fiasco. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Amnesty International a appelé ce mercredi dans un communiqué à mettre immédiatement un terme aux expulsions forcées et démolitions massives conduites depuis janvier par les autorités du district d'Abidjan dans les quartiers précaires. L'ONG dénonce un usage excessif de la force et affirme que plusieurs dizaines de milliers d'Abidjanais ont déjà été chassés de ce jeu. Mi-mars, le gouvernement ivoirien avait annoncé le versement de 250 000 francs CFA par ménage expulsé, mais début août, des milliers de familles n'avaient toujours pas été relogées et ou indemnisées pour les pertes subies selon Amnesty. L'Éthiopie et la Somalie ont accompli un progrès notable lors du deuxième tour des pourparlers indirects menés par l'entremise de la Turquie à Ankara, a annoncé mardi le ministre turc des Affaires étrangères. Le troisième tour des pourparlers est prévu le 17 septembre à Ankara. Le point avec Jean-Roger Billon.
La Turquie intervient dans la crise des deux voisins de la Corne de l'Afrique afin de permettre l'accès de l'Éthiopie aux eaux internationales via la Somalie sans attenter à la souveraineté territoriale de celle-ci. Il existe des convergences importantes sur certains principes majeurs et modalités spécifiques. Cela constitue un progrès notable, a affirmé le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues à Ankara. Durant les discussions à Ankara, le chef de la diplomatie turque a fait la navette entre ses deux homologues sans que ceux-ci ne se parlent en direct. Samedi, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et dimanche avec son homologue somalien Hassan Cheikh Mahmoud, selon la présidence turque. Addis Abeba a conclu en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour l'accès à la mer avec engagement à reconnaître l'indépendance de ce territoire qui s'est unilatéralement séparé de la Somalie. Cet accord a ouvert une nouvelle crise entre ces deux voisins d'Afrique de l'Est qui se sont durement affrontés par deux fois au siècle dernier.
Des discussions sur un cessez-le-feu au Soudan commencent ce mercredi en Suisse sous la direction des États-Unis. Même si l'armée soudanaise boude la table des négociations, les paramilitaires ont accepté l'invitation selon l'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello. De précédents cycles de négociations menés à Jeddah en Arabie Saoudite ont échoué. Khartoum s'interroge sur la nécessité d'établir une plateforme de discussion ailleurs qu'à Jeddah. Mais Washington voit la Suisse comme une extension des pourparlers en Arabie Saoudite, selon M. Perriello. L'Agence de santé de l'Union africaine a lancé hier un appel clair à l'action pour enrayer la propagation de l'épidémie de Mpox sur le continent. Après l'avoir déclaré une urgence de santé publique, Washington dit coordonner avec les pays les plus touchés. Eric Manirakis.
J'annonce le cœur lourd avec un engagement indéfectible envers notre peuple, envers nos citoyens africains, que nous déclarons le Mpox comme une urgence de santé publique continentale, a affirmé le président de l'Africa CDC, Jean Kaseya, lors d'une conférence de presse. Nous devons être proactifs et agressifs dans nos efforts pour contenir et éliminer ce fléau, a-t-il ajouté. Cette annonce, qui va notamment permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et d'avoir une réponse continentale, intervient à la veille de la réunion du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé pour évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte sanitaire au niveau international face à cette maladie. Les États-Unis ont indiqué mardi être en étroite coordination avec la RDC, d'autres pays affectés et des organismes de santé. Nous suivons étroitement la propagation du Mpox en Afrique centrale, a commenté le porte-parole du département d'État. Un total de 38 465 cas de cette maladie, anciennement connue sous le nom de variole du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès.
Un enfant sur 5 dans le monde subit au moins 2 fois plus de jours de chaleur extrême qu'il y a 60 ans. L'alerte est faite par l'UNICEF qui précise que cela représente près d'un milliard d'enfants sur tous les continents. Même si certaines régions sont particulièrement touchées, en Afrique de l'Ouest et centrale, 123 millions d'enfants, 139% des enfants de cette région, vivent plus d'un tiers de l'année au-dessus de 35 degrés Celsius, avec des pics au Mali, au Niger, au Sénégal et au Soudan. Justement, pour la deuxième année consécutive, les températures de la mer Méditerranée atteignent des niveaux records. Ce phénomène climatique menace les poissons et les plantes marines tout en favorisant les espèces invasives et augmentant l'intensité potentielle des précipitations. Le point avec Lionel Gaïma.
Le 11 août, la température médiane quotidienne de la surface de la mer Méditerranée a atteint 28,67 degrés Celsius, proche du record de 28,71 Celsius mesuré le 24 juillet 2023, a indiqué Justino Martinez, chercheur de l'Institut des sciences de la mer de Barcelone et de l'Institut catalan ICATMAR. Pendant 2 étés successifs, la Méditerranée aura ainsi été plus chaude que lors de l'été caniculaire hors normes de 2003. Aujourd'hui, ce qui est remarquable n'est pas tant d'atteindre un maximum sur un jour donné, mais d'observer une longue période de température aussi élevée, même sans battre de record, a commenté Justino Martinez. Depuis 2022, les températures de surface sont élevées sur une longue période de façon anormale, même quand on prend en compte le contexte de changement climatique, a-t-il ajouté. La région méditerranéenne, frappée en juillet comme en 2023, est depuis longtemps classée comme un point chaud du changement climatique par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. GIEC.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont approuvé hier la vente d'armement à leur allié israélien pour plus de 20 milliards de dollars. Le département d'État a déclaré dans une notification au Congrès américain que cette vente va améliorer la capacité d'Israël à faire face aux menaces ennemies actuelles et futures. Cette annonce survient alors que la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas entre dans son 11e mois et que le président Joe Biden pousse pour un cessez-le-feu. Un Américain travaillant pour le renseignement militaire a plaidé coupable hier d'avoir fourni à la Chine des informations confidentielles relatives à la défense des États-Unis. Corbin Schultz, qui était doté d'une habilitation secret défense, a été arrêté en mars à Fort Campbell, une base militaire dans l'est du pays. Parmi les documents transmis à la Chine, des informations sur les tactiques militaires chinoises, des exercices des forces militaires américaines en Corée du Sud et en Philippines, ou encore des détails sur des armes comme l'hélicoptère HA-60 ou l'avion de chasse F-22. Corbin Schultz risque de passer des décennies derrière les barreaux. Une audience a été fixée au 23 janvier 2025. Les Nations Unies ont exprimé mardi leur inquiétude face à ce qu'elles qualifient de climat de peur régnant au Venezuela, où l'opposition continue de revendiquer la victoire à la présidentielle. Le point avec Michel Joseph.
Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits humains, estime qu'il est particulièrement troublant que tant de personnes soient détenues, accusées ou inculpées pour incitation à la haine ou en vertu de la législation antiterroriste. Le diplomate onusien demande la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement et un procès équitable pour tous les détenus. Dans un climat de peur, il est impossible de mettre en œuvre les principes démocratiques et de protéger les droits humains, a ajouté sa porte-parole Ravina Shamdasani. De son côté, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a exprimé son espoir d'une solution démocratique et fondée sur le dialogue à la crise au Venezuela, après s'être entretenu avec le ministre colombien des Affaires étrangères, Luis Gilberto Murillo. Le Conseil national électoral, CNE, a ratifié la victoire fin juillet du président sortant, Nicolas Maduro, avec 52% des voix, sans publier le décompte exact et les procès-verbaux des bureaux de vote, assurant avoir été victime d'un piratage informatique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Alexandrine Holoyon.
L'acheteur public de matières premières égyptien, GASC, est en pourparlers pour acheter 30 cargaisons ou jusqu'à 1,8 million de tonnes de blé à des vendeurs dont la Russie, selon des négociants en Europe et au Moyen-Orient. La Russie, premier exportateur mondial de blé, a renforcé sa présence au Moyen-Orient et sur d'autres marchés émergents dans le but d'augmenter ses exportations agricoles de 150% d'ici à 2030. Le Botswana veut renégocier son projet d'achat avec le négociant en pierres précieuses belge HB Antwerp à la suite du ralentissement du marché du diamant. Le Botswana, premier producteur mondial de diamants en termes de valeur, a vu son économie touchée de manière disproportionnée par la baisse de la demande de diamants provoquée par le ralentissement économique mondial. Le géant de la technologie Samsung fait face à une nouvelle menace de grève cette semaine en Corée du Sud. Le principal syndicat des travailleurs de l'entreprise a déclaré mardi qu'il entamerait une grève de 4 jours à partir de jeudi. Il souhaite faire pression sur l'entreprise pour obtenir une augmentation des salaires et des primes. Cette grève intervient quelques semaines après l'échec des négociations avec la direction en juillet dernier.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Les Jeux Olympiques Paris 2024 n'ont pas souri au Nigeria, qui est reparti bredouille de la capitale française.
Le Nigeria est rentré sans la moindre médaille des JO 2024 et s'interroge sur les raisons du fiasco entre faillite des meilleurs athlètes et dysfonctionnement des fédérations. Toby Amusan, championne du monde en 2022 et détentrice du record du monde sur 100 mètres, a été éliminée dès les demi-finales. Le ministre des Sports souligne notamment que les athlètes ont entamé trop tardivement la préparation des JO. La sprinteuse Favour Ofili a accusé les responsables de la Fédération d'athlétisme de l'avoir écartée du 100 mètres à Paris en raison de défaillances administratives alors qu'elle s'était qualifiée. Mais selon une source haut placée de l'administration sportive du Nigeria, Favour Ofili avait été retirée du 100 mètres pour lui permettre de se concentrer sur le 200 mètres. Le ministre des Sports nigérian s'est engagé à questionner la fédération sur les raisons qui l'ont poussé à retirer Favour Ofili du 100 mètres. Ofili a finalement terminé sixième de la finale du 200 mètres. Dans le désert des résultats, le parcours de l'équipe féminine de basketball sous la direction de Rena Wakama a été salué comme la seule réussite des JO. Les Nigérianes sont devenues la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale. La Fédération internationale de basket a même attribué à Rena Wakama le titre de meilleure entraîneuse du tournoi, l'une des rares satisfactions nigérianes. Le record historique de médailles, 2 or, 1 argent, 3 bronzes, pour le Nigeria remontant à 1996 à Atlanta aux États-Unis est bien loin. En 2008, à Pékin, le bilan avait été de 5 médailles. Mais aucune lors des Jeux de Londres en 2012, comme à Paris donc.
Après les JO, place aux Jeux paralympiques qui s'invitent à Paris du 28 août au 8 septembre.
Un mois après la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine, spectaculaire et diversement accueillie, les yeux se tournent vers la place de la Concorde pour une cérémonie des paralympiques. Le Suédois Alexander Ekman a été choisi pour chorégraphier le tout, entouré notamment de 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap. Les Champs-Élysées accueilleront de leur côté le défilé de quelques 180 délégations.
Et pour les premières épreuves et les premières médailles à distribuer, il faut attendre le 29 août.
Du paracyclisme sur piste, de la natation, du taekwondo, du tennis de table, les épreuves débutent et les premières médailles tombent. La journée marque aussi le début de certains sports collectifs avec le rugby et basket fauteuil et le volley assis. Les curieux pourront aussi découvrir la boccia qui s'apparente à la pétanque et le goalball, sport collectif de ballon, deux disciplines sans équivalent au JO.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. La Sierra Leone a succédé à la Russie à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce poste, le pays sera responsable de l'élaboration de l'ordre du jour ainsi que de la supervision des activités liées au maintien de la paix et de la sécurité internationale à la tête de l'organe exécutif des Nations Unies. Pour en savoir plus sur les défis de ce pays africain dans son nouveau rôle, Jean-Roger Billon a joint à Bruxelles Andy Alain Simon, spécialiste des Nations Unies.
Cela faisait à peu près 53 ans que la Sierra Leone n'était pas revenue au Conseil de sécurité en raison d'un passé funeste ruiné par le trauma de la guerre civile. D'ailleurs, le président saisit cette occasion pour rappeler que l'Afrique devait avoir deux places permanentes au Conseil de sécurité. Et donc voilà, je pense que c'est sous cette campagne sécurité, bonne gouvernance, démocratie, promotion des jeunes et des femmes que la Sierra Leone a voulu inscrire son mandat, étant donné que la Sierra Leone et l'Algérie font partie du groupe qu'on appelle le CETIS. Le CETIS, c'est le groupe africain qui milite en faveur de l'élargissement du Conseil de sécurité.
Quels sont les grands défis de cette présidence sur la scène globale?
Les Africains ont tendance à se contenter de postes nominaux, mais sans avoir derrière un agenda concret, bien articulé, une vision. Il ne s'agit pas simplement de réclamer des postes au sein du Conseil de sécurité, mais il s'agit notamment pour une présidence comme celle-là d'avoir un agenda bien outillé. Et très souvent, on a des présidences qui sont creuses et donc il s'agira pour la Sierra Leone d'être inventive, créative et de générer de l'engouement.
Justement, nous sommes à un mois du sommet de l'ONU sur l'avenir et de l'Assemblée générale de l'ONU. Comment cette présidence de la Sierra Leone peut-elle mettre sur orbite les urgences de l'Afrique?
Oui, mais cette présidence devra travailler en tandem avec l'Assemblée générale. Vous savez que la Sierra Leone a été élue concomitamment le 6 juin 2024, au même moment où on a élu Philemon Diang comme président de l'Assemblée générale. Donc il y a là une convergence et un faisceau d'éléments tout à fait positifs qui doit permettre à l'Afrique de mutualiser ses efforts et ses énergies pour pouvoir proposer au monde une nouvelle vision de l'Afrique comme absente du menu mais assise à la table en vue du reformatage, de la réarticulation d'une nouvelle architecture mondiale et qui pourra permettre de faire valoir que l'Afrique, enfin, aujourd'hui est en capacité de penser le monde dans sa globalité avec efficacité et avec distance.
L'Afrique aura-t-elle un mot à dire dans le sommet sur l'avenir?
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est l'un des dangers les plus graves qui menacent notre civilisation malgré ses promesses de progrès et d'avancées positives vers l'avenir. Mais nous ne pouvons pas gouverner le monde aujourd'hui avec les outils d'hier. Et donc, il s'agit de trouver un cadre régulateur pour faire en sorte que les développements technologiques assez rapides qui arrivent soient centrés sur l'humain et ne nous débordent pas et ne desservent pas la plus grande humanité, mais surtout que la fracture numérique, la fracture digitale soit réduite au maximum et que cet aéropage de progrès fulgurant du monde technologique profite au progrès de l'humanité.
Andy Alain Simon, spécialiste des Nations Unies, auteur de l'ouvrage « Les ABC de l'Assemblée générale des Nations Unies ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Sénégal, plusieurs médias ont suivi hier mardi une journée sans presse pour alerter sur la situation des médias dans le pays, des difficultés d'ordre financier, fiscal, mais également liées au climat politique. Dili Diko a joint Maïmouna Ndoufaï, journaliste sénégalaise, directrice de cette TV et membre du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. Elle nous explique les raisons de cette journée sans presse.
On a organisé cette journée sans presse pour une fois et très rarement nous faire entendre, faire tonner nos voix par rapport à la situation difficile, à la situation économique très, très pénible que traversent les entreprises de presse. Ces difficultés ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles ont été exacerbées par des mesures prises dernièrement par le gouvernement du Sénégal.
Est-ce que vous pensez que le pouvoir au Sénégal, les autorités actuelles cherchent à museler la presse sénégalaise?
Je ne veux pas en arriver à cette conclusion. Je suis encore loin d'une conclusion aussi radicale. mais l'environnement n'est pas présentement propice à l'épanouissement économique des organes de presse. Il n'y a pas de persécution liberticide. Ça, il faut le reconnaître. Le Sénégal est une très grande démocratie. La liberté d'expression y est consacrée. Mais il faut reconnaître que pour s'exprimer, il faut exister. Et aujourd'hui, c'est notre existence qui est menacée par un ensemble de difficultés qu'on a traînées et qui sont aujourd'hui exacerbées par des mesures unilatérales prises par les autorités sénégalaises.
Est-ce que vous pensez que le modèle économique actuel de la presse sénégalaise est viable et qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Le modèle économique est en train d'atteindre ses limites avec l'apparition des technologies de l'information et de la communication. Il faut se réinventer. On n'a pas le choix. Il faut se réinventer tout en restant conservateur par rapport aux fondamentaux, par rapport à la fiabilité de l'information. Il faut se réinventer. Les entreprises de presse qui ne penseront pas à le faire vont peut-être aussi disparaître devant l'avènement des réseaux sociaux, la multiplicité des canaux de communication. Et au Sénégal, il faut dire que depuis 5 ans, tous les organes de presse se sont adaptés à cette transformation digitale. Maintenant, il faut un accompagnement de l'État. Il faut que l'État aménage des conditions pour accompagner cette transformation.
Maïmouna Ndour Faye, journaliste sénégalaise et directrice de cette TV, jointe par Dili Diko.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Un rapport conjoint de l'ONU et de l'Union africaine en 2023 indique les risques accrus pour les personnes atteintes d'albinisme avec le réchauffement climatique en Afrique. Une analyse récente de World Weather Attribution avertit que de telles vagues de chaleur pourraient devenir plus fréquentes en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Lorsque le soleil d'été est au zénith à Cotonou, la capitale du Bénin, Karine Kiki applique soigneusement de la crème solaire sur le dos pâle de ses jumelles. Vivant avec l'albinisme, les deux fillettes font partie d'une communauté déjà vulnérable qui fait désormais face à des risques accrus avec des vagues de chaleur extrêmes en Afrique. Karine Kiki est la mère des jumelles albinos.
Elles ne tombent pas souvent malades. En termes de santé, leur seul problème est leur peau. Lorsque les taches sont apparues sur leur peau, je les ai emmenées 3 fois chez un dermatologue. Il m'a ordonné une vigilance constante pour protéger les filles des rayons nocifs du soleil.
Karine Ongué, une femme albinos de 38 ans, a fondé Albi International, une association qui déploie des efforts pour soutenir les familles comme celle de Karine.
C'était le soleil qui avait causé le cancer de ma soeur. Donc, après l'enterrement et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire savoir à nos frères albinos que le soleil était un danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer quelque chose pour les réunir. Il faut créer quelque chose pour sensibiliser, pour que la voix porte. Forcément, il faut une ONG ou une association.
Le docteur Jan Asogba, dermatologue à Cotonou, a expliqué les risques accrus des fortes températures pour les personnes atteintes d'albinisme. Docteur Asogba a souligné l'importance du port de chapeau, des lunettes et des crèmes solaires, ainsi que des vêtements de protection face à des événements météorologiques extrêmes comme les fréquentes vagues de chaleur. Docteur Jan Asogba est dermatologue à Cotonou.
On sait que les rayons ultraviolets créent des altérations aux ADN des cellules de la peau. Et l'accumulation de ces dommages va entraîner une modification des cellules de la peau qui vont devenir progressivement cancéreuses. Et donc, les mesures de protection se résument en un seul terme, la photoprotection, pour en fait limiter la dose de rayons ultraviolets reçus.
Alors que le changement climatique menace de rendre la chaleur extrême plus fréquente en Afrique de l'Ouest, des initiatives comme Albi International peuvent s'avérer cruciales pour protéger les communautés vulnérables, notamment pour des familles comme celle de Karine, qui font face à un défi à la fois médical et financier.
Alexandrine Croix-Lognon avec vous.
Washington Forum s'intéresse cette semaine à la campagne présidentielle en cours aux États-Unis. Après les Républicains, les démocrates se retrouvent la semaine prochaine à Chicago pour choisir officiellement leur candidat à la présidentielle de novembre. La vice-présidente Kamala Harris est assurée d'être investie avec son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Quels sont, selon vous, les scénarios les plus probables pour la suite de la campagne? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. En rediffusion samedi et dimanche.
L'immigration est l'un des principaux enjeux des prochaines élections américaines. La vice-présidente Kamala Harris fait campagne sur ses réalisations en tant que procureur, tandis que l'ancien président Donald Trump dénonce le bilan de l'administration actuelle et promet des déportations massives d'immigrants sans papier. Aline Barros, journaliste spécialiste de l'immigration à la VOA, en dit plus, récit Lionel Gaïma.
Lors de sa campagne, la vice-présidente Kamala Harris met en avant son expérience en tant que procureur de district puis procureur général de Californie.
J'ai parcouru les tunnels souterrains entre les États-Unis et le Mexique, le long de la frontière, avec des agents des forces de l'ordre. Je me suis attaqué aux gangs transnationaux, aux cartels de la drogue et aux trafiquants d'êtres humains qui entraient illégalement dans notre pays. Je les ai poursuivis dans différentes affaires et j'ai gagné.
Pendant son mandat, l'ancien président Donald Trump a construit plus de 80 km de murs frontaliers. Il a réduit le plafond annuel des admissions des réfugiés à des niveaux historiquement bas et appliqué une politique qui séparait les enfants de leurs parents.
En novembre, le peuple américain comparera ces dossiers et dira « La tsar de frontières, Harris, vous avez fait un travail horrible. Vous êtes une honte pour notre pays. Vous êtes renvoyé. Sortez d'ici. Vous êtes viré. Sortez d'ici. »
L'immigration est un sujet brûlant dans cette élection présidentielle. Selon une enquête de Chicago Council, 50% des personnes interrogées estiment qu'une immigration massive constitue une menace pour les États-Unis. Un peu plus de la moitié des Américains sont favorables à un mur frontalier et à l'utilisation de troupes américaines à la frontière américano-mexicaine. D'autres s'opposent à l'expulsion massive des immigrés sans papier. Le Congrès n'ayant pas réussi à adopter une réforme de l'immigration, la nation reste dépendante des mesures exécutives, des réglementations, quel que soit le gouvernement en place. Corey Foreman est un avocat en droit de l'immigration.
Dans le contexte politique actuel, la situation est difficile parce que les mesures prises par l'exécutif feront toujours l'objet de recours judiciaires et le Congrès n'est pas disposé à agir.
Harris s'engage à soutenir une législation sur la sécurité des frontières, soulignant le rôle de Trump dans l'échec d'un projet de loi bipartisan au Sénat au début de l'année.
Il a fait échouer l'accord bipartisan parce qu'il pensait que cela l'aiderait à gagner les élections. Ce qui montre que Donald Trump ne se préoccupe pas de la sécurité des frontières. Il ne se préoccupe que de lui-même. Voici donc la promesse que je vous fais. Si je suis élue présidente, je ramènerai le projet de loi sur la sécurité des frontières que Donald Trump a tué et je le promulguerai.
Les alliés républicains de Trump l'ont exhorté à se concentrer sur les domaines dans lesquels ils estiment qu'il a un avantage sur Harris, notamment en matière de l'immigration. Ils continuent d'appeler à l'expulsion des migrants sans papier et critiquent l'administration Biden-Harris pour ce qu'il appelle une politique d'ouverture des frontières.
Avec votre vote, l'inflation cessera. Les clandestins seront refoulés. Ils ne viendront pas et nous devons les arrêter. Vous avez vu ce qu'elle a dit maintenant? Oh, nous avions une très bonne frontière. Oh, super, ils avaient la pire frontière de l'histoire du monde.
Les gardes frontières américains ont enregistré environ 130 000 traversées en juin, en hausse par rapport aux 104 000 du même mois de 2019, la dernière année de Trump à la présidence avant la pandémie, mais en baisse par rapport au pic de 300 000 enregistré en décembre 2023.
C'est ainsi que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Georges Léona Sayo à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.